première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
A parte il fatto che ci vedere quando scadono questi portodarmi, comunque...
Tra le strade saracene, mille chiese ad altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par où dire ? On poursuit notre écoute de la série La Mallette Verte, une enquête familiale menée sous la houlette de Perrine Socal, qui enquête autour de la figure de son arrière-grand-père, un marchand d'art à Vienne, sur qui elle s'approche d'une vérité un peu secrète.
Innsbruck est une jolie ville dans le Tyrol, au pied des montagnes. C'est là, dans le lieu-dit Wilton, que se trouve l'abbaye des Prémontrés, un ordre religieux catholique aussi appelé Ordre des Norbertins. L'abbaye, avec sa basilique de style baroque, est encore aujourd'hui la plus riche et la plus importante du Tyrol. Même s'il y a sans doute moins de chanoines et de fidèles aujourd'hui que quand Émile y est venu négocier la vente du calice. Enfin, d'après ce qu'il prétend du moins. C'est ce que je suis venue vérifier. Émile a-t-il vraiment aidé les Prémontrés à vendre le calice au musée d'art et d'histoire de Vienne ? A-t-il sauvé ce calice des mains des nazis ? D'après le conservateur du musée de Vienne, côté acheteur, la réponse était clairement non. Mais je veux encore laisser le bénéfice du doute à Émile et vérifier la version des Prémontrés côté vendeur. J'ai rendez-vous avec l'archiviste de l'abbaye, Myriam Trojeur. Derrière les portes de l'abbaye se trouve un grand cloître. Et à l'intérieur, des plafonds, murs et escaliers richement décorés. Dans la bibliothèque, des rangées de livres anciens sont classés par thème, indiqués en latin. Histoire sacrée, mathématiques, scolastique. Et dans une salle plus moderne, préservée de l'humidité et de la lumière, se trouvent les archives les plus précieuses liées à l'histoire de l'abbaye. Dans ces archives, le calice prend une part très importante.
Oh, here is your... Here's Emile Socal.
Mm-hmm. Il habitait à Baden-by-Wien?
Yes. Mm-hmm. What's his role? What's the role of Emile Socal in this sale?
He was the mediator. Il était l'agent, l'intermédiaire. Il a cherché un acheteur pour le calice.
Buy the chalice. I think...
Je pense qu'à cette époque, il devait être réputé comme bon antiquaire. Parce que le musée n'aurait pas travaillé avec un inconnu.
C'est la première fois dans mes recherches que je vois le nom d'Émile aussi clairement lié à la vente du calice. Et ça, ça me rassure un peu. Il n'avait donc pas menti sur son implication dans la vente.
For me, it's interesting. You see, this is
C'est intéressant, vous voyez, ce n'est pas du papier normal. Lorsque l'on écrivait sur une machine à écrire au XXe siècle, et jusque dans les années 80, je pense, il y avait toujours une copie carbone. Et ceci est la copie d'Émile, et non celle du monastère. C'est un peu étrange. Comme si M. Sokal avait donné ses archives de la vente au monastère. Pourquoi aurait-il fait cela? Je ne sais pas. Est-ce qu'il voulait effacer toute preuve qu'il avait travaillé pour eux? Pourquoi Émile avait-il voulu effacer ses preuves? Dans son dossier d'immigration belge, il disait qu'il risquait d'être jugé comme traître à la patrie pour son rôle dans la vente. Il faut donc croire que la situation financière de l'abbaye n'était pas l'unique raison de la vente. Parce que je vous le rappelle, elle s'est déroulée à une période charnière de l'histoire, la veille de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Le conservateur du musée de Vienne m'a bien dit que ces événements n'avaient en rien empêché ou menacé la vente. Mais un autre document apporte une toute autre lumière sur cette période. Les mémoires du prieur de l'abbaye de Wilton à Innsbruck, dont les premières pages racontent la vente du calice, en octobre 1937.
L'abbaye de Wilton devait de façon urgente trouver 3 à 4 millions de shillings pour s'apurer des dettes de construction. L'archi-abbé de Saint-Pierre de Salzbourg mit en relation l'abbaye de Wilton avec un marchand d'art du nom de Sokal, un homme d'affaires juif. Après d'âpres négociations avec le musée d'histoire de l'art de Vienne, l'abbaye de Wilton n'a obtenu qu'un prix d'achat de 470 000 shillings pour son calice à 11 romans. C'est avec le cœur lourd que l'abbé Heinrich Schuller se sépara du calice que les habitants de Wilton avaient gardé pendant 7 siècles comme leur trésor le plus précieux. Une fois encore, les confrères purent prendre le joyau dans leurs mains. Le lendemain, c'était un dimanche, le 24 octobre 1937, le chanoine Alois Leitner et le prieur Heinrich Pregenzer, accompagnés de M. Sokal de la galerie Saint-Lucas, sont allés en train jusqu'à Vienne. Le calice était discrètement emballé dans un sac à dos. Arrivés à Vienne, ils se sont rendus directement, malgré l'heure tardive du soir, au musée d'histoire de l'art, où les attendait déjà le directeur du musée. 150 000 shillings ont été versés lors de la remise. Le reste de la somme d'achat de 470 000 shillings devait être transféré dans les 6 mois. Début 1938, la situation politique en Autriche devenait de plus en plus menaçante. L'abbaye fit pression sur Vienne pour obtenir le paiement du solde de 320 000 shillings. En vain. Puis vint le jour noir pour l'Autriche, le 13 mars 1938. Les événements se sont précipités. Le chancelier a été contraint par Hitler d'abdiquer. Les troupes allemandes ont envahi l'Autriche et les nationaux-socialistes ont pris le pouvoir. L'abbaye craignait pour la somme importante qu'elle devait encore se voir verser. L'abbé envoya immédiatement l'administrateur du moulin, M. Ludolf Pariger, à Vienne. Bien que tout soit en désordre à Vienne, il obtint, à l'exception d'un petit solde, le paiement du montant du calice. Tout joyeux, Ludolf a pu remettre la somme sauvée à l'abbé.
D'après les mémoires du prieur, c'était surtout ce Ludolf qui avait sauvé l'argent de la vente. Mais quoi qu'il en soit, j'ai maintenant la confirmation que la vente a été largement menacée par la situation politique, l'arrivée des nazis au pouvoir. Et ça, c'est aussi l'opinion de Myriam.
Le monastère a vendu le calice parce qu'ils avaient besoin d'argent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je crois, et c'est juste mon opinion, qu'ils ont aussi pensé à l'héritage culturel. Et ils savaient que le calice était l'un de leurs plus précieux biens. Ils voulaient pouvoir le transmettre à quelqu'un qui puisse l'apprécier et empêcher les nazis de le leur enlever.
Parce que vous pensez qu'ils craignaient que les nazis ne s'emparent de ce type de trésor?
Ils le savaient.
D'après Myriam, les prémontrés avaient donc vendu le calice pour éviter qu'il n'arrive dans les mains des nazis. Mais pourquoi les nazis auraient-ils voulu s'en emparer ? Quand j'ai commencé à me pencher sur les rapports entre l'Église et les nazis, ça m'a ouvert tout un pan de l'histoire qui m'était inconnu jusque-là. Alors dans le cadre de l'abbaye, figée dans le passé, où le cœur des enfants de Wilton répète des chants séculaires, je vais vous raconter comment les événements se sont déroulés pour l'abbaye après la prise au pouvoir des nazis. Nous sommes en mars 1938. Peut-être que cette année-là aussi, le cœur des enfants de Wilton répète la Passion Saint-Matthieu en prévision des fêtes de Pâques. Mais c'est une autre mise à mort qui se prépare. Celle de l'institution catholique par les nazis. Peu après leur arrivée au pouvoir, les nazis lancent l'opération Klostersturm, tempête sur les monastères, et cela à travers toute l'Allemagne, dont je vous rappelle que l'Autriche fait alors partie. Dès le mois d'août 1939, ils s'emparent de l'abbaye des Prémontrés d'Innsbruck et expulsent les chanoines. Certains sont emprisonnés, d'autres envoyés au camp de Dachau. À travers cette opération, les nazis confisquent aussi les biens et trésors artistiques. L'abbaye d'Innsbruck n'est pas la seule concernée. Plus de 300 propriétés catholiques furent détruites, confisquées ou pillées. Alors personne ne saura jamais ce que le calice serait devenu s'il était resté à l'abbaye des Prémontrés, ni s'il aurait été restitué après la guerre. Mais dans ce contexte angoissant, les Prémontrés aidés par Émile avaient bel et bien dû être soulagés. Ils avaient sauvé le monastère de la banqueroute et mis le calice à l'abri la veille de l'Anschluss, juste avant que les nazis ne prennent les commandes du musée. De retour à Vienne, j'ai rendu visite à un professeur spécialiste de l'histoire de l'Église catholique autrichienne, Rupert Kliber. Il m'a expliqué pourquoi l'Église catholique aussi était la cible des plans d'Hitler et en quoi le destin d'Émile avait dû s'y retrouver mêlé.
Hello. Ich grüße Sie, hello. Nice to meet you.
Le professeur Kliber m'a expliqué que les nazis n'aimaient pas les ordres catholiques car ils voulaient nazifier tous les secteurs de la société. C'est ce qu'on a appelé la Gleichschaltung, la mise au pas de la société dans son ensemble pour imposer le pouvoir total.
Die Feindbilder der Nazis gegen die katholische Kirche.
L'hostilité des nazis à l'égard de l'Église catholique était presque aussi prononcée que celle à l'égard de la communauté juive. Par exemple, lors d'une assemblée anticléricale ici sur la place des Héros, il y avait un slogan : le cardinal Initzer et les juifs sont de la même espèce.
Les nationaux-socialistes voyaient d'un mauvais œil l'influence de l'Église sur la population. Ils estimaient que leur richesse était illégitime, qu'elle n'avait été acquise que grâce à des siècles d'exploitation de la population. Alors pour réduire le pouvoir important de l'Église en Autriche, qui, je vous le rappelle, n'avait pas connu la Révolution comme chez nous, les nazis ont voulu limiter leur indépendance financière en confisquant leurs biens. Émile, en aidant les prémontrés à vendre le calice et à en récupérer une somme très importante, sabotait donc les efforts allemands pour soumettre les autorités catholiques.
La vente du calice représentait une grosse somme d'argent et elle était donc naturellement suspectée d'être illégale ou contre les intérêts nationaux.
Ce serait donc pour ça qu'Émile aurait tenté de supprimer toute preuve de son implication dans la vente notamment en donnant toutes ses archives de la vente à l'abbaye d'Innsbruck.
Ja, das könnte durchaus einen Sinn ergeben, Sinn haben.
Oui, cela pourrait avoir un sens. Peut-être que Sokal lui-même ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de documents prouvant son implication dans la transaction. Parce qu'il pouvait s'attendre à ce que, dans tous les cas, cette activité pour les milieux ecclésiastiques, qui plus est par un homme d'affaires juif, serait interprétée en sa défaveur et qu'elle lui porterait préjudice.
Émile n'avait donc pas intérêt à ce qu'on trouve en sa possession tout document pouvant être utilisé contre lui. Après ces nouvelles découvertes, un gros chapitre de mon enquête se clôture. Émile était bel et bien impliqué comme agent dans la vente du calice de l'abbaye d'Innsbruck au musée d'art et d'histoire de Vienne et avait effectivement rendu service à l'abbaye à un moment très vulnérable de son histoire. Cette vente aurait pu lui causer beaucoup de problèmes dans l'Autriche nazie, en plus du simple fait d'être juif, bien sûr. Et tout cela avait dû contribuer à sa fuite hors d'Autriche. Mais à ce stade de l'histoire, il est grand temps que je vous parle d'un autre personnage important. Lorsqu'Émile fuit en Belgique, il laisse derrière lui ses trois enfants, ainsi que sa femme, Maria, mon arrière-grand-mère. Et quelques mois plus tard, Maria meurt brutalement à Vienne. Et en cherchant les raisons de sa mort, je me suis rappelé que les atrocités nazies ne se sont pas cantonnées au camp de concentration. Un autre lieu rivalise d'horreur. Les asiles psychiatriques.
Donc voilà le journal de Maria qui était chez mes parents. Il y a une très longue dédicace d'une personne qui le lui a offert. Donc voilà. Et puis après, c'est l'écriture de Maria.
Oh, des petits dessins.
Ça, c'est les dessins des enfants Soko qui voyaient ça traîner à la maison, qui s'amusaient à faire des...
De toi et de tes frères ?
Oui. Si ça tombe, il y en a encore après, hein, des journaux.
Ben, moi, j'en ai trouvé un deuxième, et donc, qui est avant celui-là, qui est la naissance d'Henri.
Je suis toujours à Vienne avec ma famille. Ces journaux, c'est la seule trace que nous avons de mon arrière-grand-mère, Maria, la femme d'Émile.
Et qu'est-ce qu'elle raconte dans ce journal ?
Elle parle beaucoup d'Henri.
C'est surtout la vie quotidienne avec les enfants, tu vois. C'est la petite histoire.
Mais toi, Anne, qui l'a lu, qu'est-ce qui...
Mais attends, moi, je n'ai pas lu, je ne connais pas l'allemand. Moi, j'ai fait comme on fait aujourd'hui, tu vois. Essayer de déchiffrer quelques morceaux. Donc moi, je me souviens de cours de piano et de cours de français, il me semble.
Pour le reste, je sais juste qu'elle est morte à Vienne dans des circonstances très étranges.
Kinderball, comme un bal des enfants. Il faudrait que quelqu'un puisse le traduire. Donc ici, on parle de Henri. Heinz ist... Il a dansé mit einer kleinen baronesse. Henri a dansé avec une petite baronne.
28 décembre 1929. Maintenant que les fêtes de Noël sont terminées, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine nostalgie pour cette fête joyeuse, tant attendue des enfants. Tout le monde était enchanté de cette soirée de Noël, et le petit Gérard était particulièrement ravi des lumières sur le sapin. Son jouet préféré était sans aucun doute le train miniature. Tandis que les deux plus grands jouaient une valse à quatre mains. Je pense les inscrire à des cours de piano avec M. Tilgröger. Les soirées de présentation de ses élèves m'impressionnent beaucoup. Mars 1931. Maintenant, nous entrons dans une toute nouvelle phase. Et le déménagement est imminent. Nous quittons la Karlsgasse, où nous avons habité depuis le jour de notre mariage. C'est ici que nos enfants sont nés. Papa a acheté une grande et belle villa dans la Friedrichstrasse. Il l'a achetée sans que je le sache. Il faut l'aménager, et les enfants se réjouissent déjà du jardin, avec les beaux noyers, et de la grande maison, avec la belle véranda et le balcon. Moi-même, je suis déjà terriblement excitée en tant que nouvelle femme au foyer, avec les obligations qui m'incombent.
Ce sont les dernières lignes que nous avons de Maria. En tout cas, nous n'avons pas retrouvé d'autres carnets. Ensuite, la vie de la famille a pris une toute autre tournure. Je retrouve la trace de Maria 8 ans après le déménagement, dans le dossier d'émigration d'Émile, en 1939. Peu après son arrivée en Belgique, en février 39, Émile essaie de faire venir ses enfants et sa femme, mais les demandes de visa sont refusées. Maria meurt le 5 juillet. Et ça, ça change tout, puisque les enfants sont seuls, sans protection à Vienne. Alors dès le lendemain de la mort de leur mère, ils reçoivent un laissez-passer pour rejoindre leur père Émile à Bruxelles. J'imagine mon grand-père, emballé de maigres bagages à la hâte. Il voit le journal de sa mère parmi ses affaires, laissé derrière elle. Il le jette dans la mallette verte. Il prend aussi quelques photos de famille et son appareil photo, son seul bien de valeur. Alors dans la nuit, Gérard et ses frères se dépêchent de rejoindre le transport organisé par l'avocat de son père. Et ils espèrent qu'il leur a trouvé une situation plus sûre à Bruxelles. Mais qu'est-il arrivé à Maria ? Raoul, le père d'Anne, lui avait dit qu'elle était morte d'un cancer. Henri, l'aîné, avait dit à sa famille qu'elle était morte d'un problème au cœur. Et les archives du dossier d'immigration parlent de tout autre chose encore. Une lettre explique que suite à la fuite d'Émile, la colère des dirigeants se retourna contre sa femme. Elle fut expulsée de son appartement, enfermée dans un asile d'aliénés et mourut peu après. Nous avons retrouvé la trace de cet asile d'aliénés. Il s'agit de l'hôpital Am Steinhof, aujourd'hui rebaptisé la clinique Otto Wagner.
Donc là, on a traversé en vélo, c'était des pavillons, c'est l'hôpital en fait. Ah, mais il n'y a plus personne alors. Et donc on ne peut pas entrer, mais c'est, voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a plusieurs pavillons comme ça. Et Maria devait avoir été hospitalisée dans, ou enfermée, je ne sais pas comment on dit.
Mais il y en a d'autres qui ont l'air plus anciens en briques.
Ceux-ci n'ont pas l'air tout neuf. Comme
non.
C'est construit par Otto Wagner, c'est ça ?
Oui, Otto Wagner aussi.
L'église, oui, c'est aussi Otto Wagner, comme l'église.
Regarde, il y a des espèces de vérandas comme ça, un peu stylées.
Nous n'avons pas pu entrer dans le site de l'hôpital, ni visiter le musée dédié à son histoire. Le site était entièrement grillagé à cause des mesures Covid.
On y va ?
Alors j'ai appelé quelqu'un qui a bien étudié l'hôpital, son architecture et son histoire. Sabine Weber. Elle est professeure d'histoire de l'art et de l'architecture à l'Université de Glasgow.
En matière d'architecture et d'urbanisme, c'était très progressiste, très moderne. Ils ont fait appel à Otto Wagner pour leur plan. C'était le père du modernisme en Europe centrale.
L'hôpital a été pensé comme une cité-jardin, avec plusieurs pavillons répartis dans un parc. L'idée était que les patients puissent prendre l'air et même participer à des ateliers de jardinage. Mais tout ça, ce n'était qu'une utopie.
Mais
finalement, en termes de soins psychiatriques et de traitement des patients, ce n'était pas aussi progressif que ce que les fondateurs avaient envisagé, parce que c'était constamment surpeuplé. L'institution avait été conçue pour 2000 patients à l'origine, et très rapidement, ces chiffres ont été largement dépassés.
Et cette surpopulation n'était que le début de l'histoire d'horreur qui allait se dérouler dans les murs de l'hôpital.
Dans les années 30, toutes les institutions médicales en Autriche, et en particulier à Vienne, ont été ce que j'appellerais nazifiées. À partir du 30 septembre 1938, les docteurs juifs ne pouvaient plus exercer.
Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la médecine devenait un outil pour établir l'idéologie nazie. Dans ce contexte, les personnes souffrant de problèmes psychologiques ou d'un handicap mental ou physique étaient considérées comme un fardeau pour la société. Des bouches à nourrir inutiles, ne méritant pas de vivre. Il fallait les éliminer pour préserver l'hygiène raciale aryenne. Et s'ajoutait à cette raison un raisonnement très froidement pragmatique. Dans un contexte de guerre, il fallait préserver la nourriture, les ressources du personnel hospitalier et puis libérer les hôpitaux pour les victimes de guerre. Le régime met donc en place une opération secrète, appelée Action Tevir, dès le mois de septembre 1939.
So psychiatric patients were shipped off or transported off from Steinhof to.
Les patients furent transportés de Am Steinhof vers le château de Hartheim, près de Linz, qui est devenu, et c'est atroce de l'appeler comme ça, un centre d'extermination spécialisé.
Des milliers de patients venus d'institutions psychiatriques à travers l'Autriche et l'Allemagne furent transportés dans ces centres d'extermination. Au début, on les enfermait dans un bus et on redirigeait les gaz d'échappement dans l'habitacle. Ce fut le laboratoire de ce qui deviendra par la suite les chambres à gaz. On estime que le programme Action T4 a fait entre 70 000 et 100 000 victimes. Et le programme n'a pas non plus épargné les enfants. Parce que le programme était secret, on maquillait les meurtres en mort naturelle. Les cendres des victimes, en réalité prélevées d'un tas commun, étaient envoyées aux familles avec un certificat de décès et un motif de mort fictif. Souvent, la pneumonie. Et c'est ici que j'en reviens à Maria. Nous avons retrouvé son dossier médical et la cause de sa mort était, je vous le donne en mille, la pneumonie.
Papa, est-ce que je peux t'enregistrer ?
Oui.
Donc regarde, il y a le dossier médical de Maria, il y a un passage où on a le rapport du docteur. Et donc j'aimerais bien que tu le lises comme si tu le dictais à une secrétaire.
Note d'admission concernant Maria Engel. À l'admission, la dame est apathique, elle est en larmes, virgule. Je note des bleus sur les deux bras, sur les avant-bras et sur la cuisse droite. Point. Entretien de points. Elle est allongée dans son lit. Virgule. Elle se plaint constamment à voix basse et devient plus vive lorsqu'on lui parle, mais elle ne se laisse pas fixer. Point. Elle semble se faire beaucoup de soucis pour son mari, qui doit émigrer en tant que juif. Il serait peut-être en Belgique. Elle semble avoir été obligée de quitter son appartement. Elle se serait installée chez sa sœur avec ses trois enfants. Point. Cependant, sa sœur serait pauvre et démunie et l'aurait donc mise à la porte. Aspect physique, pâle, réagit à la lumière, dentition en bon état. Auscultation et rythme cardiaque normal, auscultation pulmonaire normaux, réflexes normaux. La dame est renfermée. Elle se plaint de chaque contact sans spécifiquement distinguer un point douloureux. En résumé, c'est une femme de 47 ans qui présente surtout un tableau clinique anxieux sans éléments probants anormaux à l'examen clinique. Point final.
D'après son dossier médical, elle était dans une détresse psychologique importante. Mais on peut très bien l'imaginer, son mari avait fui en Belgique, elle essayait tant bien que mal de le rejoindre avec les enfants, mais les demandes de visa étaient refusées. La situation à Vienne à l'époque se détériorait énormément pour les Juifs. D'ailleurs, ils avaient été expulsés de leur maison. Émile était sans doute parti avec une partie de leur fortune. Et donc, ce n'était absolument pas étonnant que dans ces conditions, Maria devienne si anxieuse. Sabine Wieber, professeure à l'Université de Glasgow, m'aide à déchiffrer la suite du dossier médical de mon arrière-grand-mère, pour mieux comprendre comment se sont passés ces derniers jours.
Nous avons une description de ses comportements et elle est décrite comme étant indisciplinée. Elle criait, elle vacillait entre différents états. Elle se retirait du monde extérieur ou se mettait à marmonner et à être incohérente. Et puis, il y a des moments où elle était indisciplinée. C'est le mot qu'ils utilisent, donc difficile à gérer. Donc elle exprimait sa psychose et c'est à cause de ça qu'on l'a mise dans un des pavillons pour les patients bruyants. Et ce n'était pas des endroits agréables.
Les pavillons étaient attribués aux patients selon leur comportement et non pas selon leurs symptômes. Donc une patiente comme Maria, qui était décrite comme bruyante, se retrouvait dans le pavillon pour patients bruyants, peu importe qu'elle souffre de son état psychique ou qu'elle montre d'autres symptômes. Dans ce pavillon, plus qu'ailleurs encore, les infirmières devaient être débordées. Elles tentaient tant bien que mal de garder les patientes sous contrôle plutôt que de les soigner réellement.
Dans son dossier médical, les notes mentionnent qu'on l'a mise dans un lit cage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi il ressemble, mais vous devriez regarder sur
Google.
Je vous épargne la recherche sur Google. Ne pensez pas à un liquage pour bébé, non, c'est beaucoup moins mignon que ça. Le liquage pour les patients psychiatriques était entièrement fermé. Maria était emprisonnée dans son lit. En quelques semaines, l'état de Maria se dégrade très rapidement. Et elle finit par mourir le 5 juillet 1939, à peine 2 semaines après son internement. Elle meurt d'une pneumonie. Du moins, c'est ce qui est écrit dans son dossier.
But the pneumonia... In many instances,
mais la pneumonie, dans beaucoup de cas, c'était une cause de mort courante pour beaucoup de patients dans l'institution. Et même si Maria a pu avoir quelques symptômes quand elle est entrée dans l'institution, c'est certainement quelque chose qui a dû s'empirer une fois arrivée et qui a directement conduit à sa mort.
D'après Sabine Wieber, Maria serait vraiment morte d'une pneumonie. Son dossier médical était suffisamment détaillé pour le confirmer. Et tout ça se passe en juin et juillet 39, quelques mois avant la mise en place de l'opération Action T4. Mais les conditions de vie à l'hôpital et la manière dont on déconsidérait les malades étaient certainement la cause d'une dégradation rapide de sa condition.
L'Action T4, c'est une opération de meurtre bureaucratique et systématique. Mais quand on voit le type de négligence dont Maria a clairement souffert, c'est-à-dire être uniquement hébergée là-bas sans être correctement prise en charge, eh bien, on peut dire que l'Action T4 est une extension de cette négligence, vous voyez? Alors oui, elle n'est pas formellement morte à cause de l'Action T4, car cela n'a commencé qu'en septembre 1939, et elle est décédée en juillet 1939. Mais l'Action T4 n'aurait jamais pu se produire sans que les personnes présentes dans ces institutions n'aient déjà adopté une mentalité favorable à ce genre de démarche. Donc oui, sur le papier, Maria ne faisait pas partie de l'Action T4, mais elle était internée pendant une période étroitement liée. Je veux dire, de juillet à septembre, ce n'est pas très long.
Papa. Je crois que c'est ici, tu sais.
Moi, j'ai vu un F-363 là.
Mais d'après le plan,
ouais.
Moi, je crois qu'on est ici dans cette allée, la troisième du bloc R. Et donc là, il y en a qui sont un carré d'herbe.
Ouais.
Donc à mon avis, ça doit être ça.
Parce que là-bas, il y avait 363 là.
Tu veux pas soulever les pierres là, s'il te plaît? Combien ce qui est écrit en dessous.
Attends, parce que ça, c'est 318. J'avais 363 là, donc à mon avis, c'est peut-être encore un peu plus bas. Et 211.
199. 200. 201. 202. 203. 9, 10, 11. C'est celle-ci.
On a trouvé.
206.
Annie!
207.
On a trouvé.
208. 209, 210, 211.
Peut-être celle-là quand
Attends,
même.
Attends, on va lui faire un petit test photogénique quand même. À la petite. Mais il y a une plaque là au-dessus. Regarde, Socal. Oh là, ça y est.
Bravo.
Waouh, yes. Magnifique. Maintenant, on est toi. Regarde. Chouette.
Ah.
Eh ben, on est doué, hein.
Ah, bravo. Magnifique.
Et donc, c'est Wilhelmine Enge. Wilhelm Enge.
Bravo, Perrine.
Wilhelm.
Regarde, il y a une croix rouge, ça veut dire qu'ils peuvent l'enlever s'ils veulent, c'est ça?
Voilà.
Ça veut dire que c'est expiré.
Oui. On va vite enlever la croix.
Voilà. Ne fasse pas les noms quand même. Hein.
Ici, voilà. C'est qui?
Marie Socal, 1939. Wilhelmine. Ah oui, mais c'est les sœurs, ça.
C'est sa sœur et son beau-frère.
Wilhelm.
En retrouvant la tombe de Maria, nous nous reconnections quasi physiquement avec notre ancêtre, en tant que famille. Une famille d'ailleurs réunie par cette recherche de nos racines. On réparait une brèche dans notre mémoire familiale.
Bon, ben, il faudrait aller repayer la concession.
Vous
avez pris des photos de la découverte?
Mais non, je
vais pas signer.
Mais il est encore temps.
Le dossier d'immigration d'Émile nous avait fait croire que Maria avait été internée par représailles des Allemands. Mais c'était sans doute une exagération de la part d'Émile pour souligner le danger que sa famille courait. Il voulait insister sur la nécessité de les rapatrier au plus vite en Belgique. Vu le dossier étayé de Maria, maintenir cette hypothèse se serait rapproché d'une théorie du complot. Le dossier d'Émile nous avait mis sur une fausse piste, mais la mort de Maria n'en restait pas moins tragique. Il faut dire qu'un autre élément nous avait d'abord orienté vers cette théorie des représailles envers Maria, pour les actions de son mari. Dans le dossier médical de Maria, se trouvait aussi un article de presse. Et il n'avait rien à voir avec sa condition médicale. Cet article était au sujet d'Émile. Il était accusé d'avoir falsifié la signature de grand peintre. Des contrefaçons vendues comme des peintures originales. Hier, le 9 juin 1939, le tribunal régional de Vienne, sous la présidence de son directeur, le docteur Prübel, a examiné une plainte pour escroquerie à l'encontre de l'architecte Hans Sachs, de son père, le restaurateur Benno Sachs, et du marchand d'art juif de l'Est, Émile Socal. Les trois accusés auraient proposé et vendu des faux tableaux de grands maîtres en tant qu'originaux. Plusieurs circonstances suspectes laissent en effet supposer que Hans Sachs, Socal et Benno Sachs ont mis sur le marché de l'art et vendu des faux tableaux peints par eux-mêmes ou achetés, en les faisant passer comme des œuvres d'art originales de grands maîtres. L'article de presse trouvé dans le dossier médical de Maria, datant du 10 juin 1939, remet beaucoup de choses en question. Alors que j'avais l'impression d'avoir finalement cerné Émile, il m'échappe de nouveau. Mon arrière-grand-père était-il un escroc? Avait-il falsifié des tableaux de grands peintres? Ce procès change tout sur les raisons de son départ d'Autriche. L'article retrouvé dans le dossier de Maria date de juin 1939. Mais le procès d'Émile a commencé 2 ans plus tôt, en novembre 1937. Avec des complices, il aurait transformé des tableaux de Coloman Moser en tableaux de Ferdinand Hodler. Les deux peintres sont tous les deux des artistes réputés de la sécession viennoise, ce mouvement artistique fondé par Gustav Klimt. Mais à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, Ferdinand Hodler valait plus que Coloman Moser. La duperie était facile. Les deux peintres avaient un style similaire et Moser ne signait pas ses tableaux. Il ne restait donc plus qu'à ajouter la fausse signature de Hodler. Cela pouvait inspirer plus d'un escroc. Mais difficile de savoir si Émile était vraiment coupable sur la base d'un article de presse seulement. Dans les archives du ministère de la Justice en Autriche, aucune trace du procès. on m'a dit qu'elles avaient sans doute été détruites. On les aurait jugées trop peu importantes. On gardait plutôt les cas de meurtre ou liés au crime nazi. Mais cette affaire des faux tableaux, elle fait écho à une autre histoire intrigante au sujet d'Émile, et que Manu m'avait racontée avant que je ne parte pour Vienne. L'histoire du Bouddha d'Émeraude. Et cette histoire allait me mettre sur une piste.
Sokal Engel, voilà. Tu vois, on est bien organisé, en plan de classement, tu vois. Hop, on va dans généalogie. Hop, Sokal Engel. Dans le Badener Zeitung. Ah, ici, voilà. Der zweitgrößte Smaragd der Welt in Baden.
Donc ça, c'est un journal local de Baden, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Voilà, ici, Samstag, den 12 septembre 1931. Donc c'est en 31.
Donc à ce moment-là, Émile était antiquaire à Baden, c'est ça?
Oui, ou marchand d'art, en tout cas. Der zweitgrößte Smaragd der Welt in Baden. Donc, le deuxième plus grand Smaragd émeraude au monde à Baden. Que le grand-père Émile était allé à Vienne dans le magasin d'un antiquaire. Et donc, on entend le nom de cet antiquaire. C'est là qu'arriva un homme qui avait besoin d'argent, qui se présenta comme un millionnaire qui venait de Chine et qui voulait vendre un Bouddha en émeraude.
Attends, donc un Bouddha en émeraude, ça veut dire que c'est de l'émeraude sculptée en forme de Bouddha.
C'est ça, ça oui, oui. Donc, il désirait 200 dollars, ingénieur Sokal, inspecte avec une loupe le Bouddha, qui d'après lui était autour des années 1700, und feind, dass er eine echte manchurische Smaragd sei. Donc il dit alors que c'est un vrai émeraude de Mandchourie. Mais bon, par après, on n'en a plus beaucoup entendu parler. Donc on se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce Bouddha? On aimerait bien le retrouver, ne fût-ce que l'exposer pendant les fêtes de famille. Non. Mais par après, en cherchant, quelques années plus tard, j'ai trouvé un autre article qui apparemment disait que le Bouddha d'émeraude n'était naturellement pas en émeraude et que c'était une simple pierre qui ressemble, mais sans valeur, quoi.
Oh.
Est-ce que c'était un coup monté? Est-ce que le soi-disant millionnaire qui arrivait là est un complice? On joue le jeu. Et lui, il arrive juste au moment où on veut le vendre. On ne sait pas. Hein, et qui dit, ah oui, il est vrai ceci, cela. Et tu te fais très beaucoup de publicité. Qui sait, tu revends peut-être même le Bouddha d'émeraude qui n'est pas un vrai émeraude à un bon prix.
Pas bête.
Non, hein.
Bref, j'en étais restée là avant de partir à Vienne. Et maintenant, je découvre que quelques années après l'histoire du Bouddha d'émeraude, peut-être en faux, Émile est accusé d'avoir falsifié des signatures de peintres. Alors Manu m'a montré le site sur lequel il avait retrouvé l'article sur le Bouddha, à l'époque de ses recherches. C'est celui de la Bibliothèque nationale d'Autriche. Et là, en tapant simplement Émile Sokal dans le moteur de recherche, j'ai trouvé presque 20 articles sur le sujet, allant de 37 à 39. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque, et certains articles, surtout ceux datant de 39, avaient clairement des consonances antisémites.
Production massive de faux tableaux par une bande d'escrocs juifs.
Des tableaux chers et presque vrais. Les méthodes des marchands d'art juifs.
Tableaux de maître, made in Vienna. Les pirates du marché de l'art viennois.
Vu la tonalité clairement antisémite de beaucoup d'articles, on peut se demander si Émile n'était pas victime d'un faux procès. Soit carrément monté de toutes pièces, soit biaisé par des préjugés anti-juifs. Encore une fois, j'ai envie de croire en la bonne foi d'Émile, ou en tout cas, de lui laisser une chance de se défendre. Et ça tombe bien, parce qu'à défaut d'avoir pu retrouver les archives du procès, un article de presse du 13 novembre 1937 retranscrit certaines parties de la première audience, quand Émile est encore à Vienne.
Tableau de Hodler, bon marché, mais pas authentique. L'ingénieur Émile Sokal, marchand d'art à Baden, et l'architecte Hans Sachs ont comparu hier devant le tribunal des jurés pour la vente de trois tableaux du peintre Kolomoser signé Ferdinand Hodler. En 1934, Hans Sachs a acheté trois tableaux, un nu et deux paysages, provenant de la succession du peintre Kolomoser. Il les a ensuite vendus à un certain Safarik, qui n'a pas réussi à les vendre à son tour, alors il a fini par les revendre à perte au vendeur initial Hans Sachs. Hans Sachs se retrouvait donc avec trois tableaux de Moser qui restaient difficilement exploitables quand soudain ils sont apparus comme des œuvres de Ferdinand Hodler. Il suffisait de faire apparaître le nom de Hodler dans un coin pour obtenir un prix beaucoup plus élevé.
Monsieur Sachs, qu'avez-vous à dire pour votre défense?
L'architecte Hans Sachs a plaidé non coupable.
L'ingénieur Sokal est venu me voir et m'a dit qu'il avait un acheteur potentiel pour des tableaux modernes. Je lui ai remis les trois Colomoser et j'ai remarqué à ce moment-là qu'il portait la signature Ferdinand Hodler. Nous n'en avons pas parlé davantage. Je n'ai pas accordé d'importance à la signature Hodler parce qu'il portait aussi le cachet Colomoser au dos du tableau. Donc oui, je savais que les signatures de Hodler étaient fausses. Mais Sokal le savait aussi.
Monsieur Sokal, le saviez-vous ?
Mais non, ce n'est pas vrai. Je n'en avais aucune idée.
Silence, je vous prie, silence.
Un Hodler coûte 10 000 à 20 000 shillings. Trois Hodler coûtent donc trois fois plus cher. Comment un marchand d'art comme vous, monsieur Sokal, peut-il donc vendre trois Hodler pour 2 000 shillings, s'il les considère comme authentiques ?
Vous savez, moi je suis chimiste de formation. Je m'occupe surtout de tableaux anciens et je ne comprends pas grand-chose aux tableaux modernes.
Mais vous avez commis un acte de tromperie. À la demande de l'acheteuse, vous avez fourni une confirmation de l'authenticité.
Ça n'était pas une confirmation de l'authenticité, mais seulement de l'origine. J'ai inventé le prétendu propriétaire précédent, Peitel. Mais je pensais que ce n'était qu'une formalité.
Lors du contre-interrogatoire, les deux accusés ont maintenu leur déclaration.
Alors, qui ment ? Et qui dit la vérité ? Quelle est la vérité ?
Je n'ai aucune raison de mentir.
Je dis la vérité.
Dans ce procès, Émile joue la carte de la naïveté. S'est-il fait avoir par Hans Sachs ? C'est vrai que bon, on ne peut pas, j'imagine, être à la fois ingénieur chimiste de formation, spécialiste de l'art religieux ancien, des statuettes en pierre précieuse et des tableaux de peintres modernistes, ça fait quand même beaucoup. On dirait qu'Émile vendait plus par opportunisme que par réelle expertise. Mais il y a quand même un argument du procureur qui est assez pertinent. Si Émile pensait qu'ils étaient vrais, ces tableaux, il n'aurait pas demandé un prix si bas. Même en n'y connaissant pas grand-chose, il devait malgré tout connaître la valeur d'un Hodler. Je dois bien l'admettre, Émile n'a quand même pas l'air tout net dans cette affaire. Il a sans doute même l'air carrément coupable. Et le clou s'enfonce encore. Depuis le début de mon enquête, une historienne à Vienne m'aide dans mes recherches. Elle s'appelle Lucie Kautmann. Elle est anglaise d'origine, mais a adopté Vienne comme sa ville de cœur. Elle est spécialisée dans le 19e et le début du 20e siècle en Autriche. On échange régulièrement sur l'enquête et elle s'est passionnée par Émile autant que moi. Et là, elle a découvert un nouvel élément. Cela ne concerne pas directement les tableaux, mais d'autres transactions dans lesquelles Émile était impliqué.
Hello, hello. I just got out of the meeting.
Lucie sort d'un rendez-vous avec des chercheuses ayant étudié la vente d'objets religieux dans les monastères et qui ont mentionné Émile dans leurs recherches. Les chercheuses ont commencé à parler de la galerie pour laquelle Émile travaillait. Tout d'abord, je n'ai pas retenu son nom, mais le gars qui possédait les galeries Saint Lucas était aussi une figure un peu douteuse. La première fois qu'elles ont vu Émile apparaître, c'était en 1907. Il a en fait fait des ventes illégales pour l'abbaye de la Sainte-Croix. Mais comme il s'agissait d'œuvres d'art et non de livres, elles ne l'ont pas vraiment examiné. Mais elles ont dit qu'il y avait des dossiers à l'Office national des monuments. Donc nous devrions regarder non seulement pour l'abbaye de la Sainte-Croix, mais aussi pour d'autres ordres religieux pour lesquels il travaillait. Nous pourrions y retracer les ventes qu'il faisait et qui étaient illégales, en gros. Mais oui, cette vente là-bas à l'abbaye de la Sainte-Croix était illégale. Elles ont également remarqué qu'Émile était toujours très secret sur ce qu'il faisait exactement avec les monastères. Je pense que nous l'avions déjà remarqué. Tu sais, le fait que nous avions toujours du mal à déterminer précisément son rôle, elles ont eu ce même problème. Mais, pour te rassurer,
Toutes ces falsifications, ces affaires louches, tout cela était en fait très courant à cette époque dans le marché des antiquités. Donc ce n'est pas seulement Émile, t'inquiète pas. C'était vraiment une chose courante à l'époque. Et elles vont m'envoyer des photos de documents d'archives de l'abbaye de la Sainte-Croix.
Après quelques recherches sur ces ventes dans les archives de l'Office des Monuments, il apparaît que l'administration ne voyait pas Émile d'un bon œil, car il tentait d'exporter certaines œuvres d'art à l'étranger, alors que l'Autriche souhaitait préserver son patrimoine national. Et de ce fait, il n'obtenait pas toujours les autorisations nécessaires. D'après les chercheuses que Lucie a rencontrées, il semble aussi qu'il avait mis beaucoup de temps à remettre l'argent de la vente d'objets à un vendeur. Rien de vraiment accablant, mais c'est sûr qu'il n'était pas tout net. J'aimerais quand même avoir encore l'avis de Marie-Thérèse, qu'on a entendue à l'épisode 2, la femme de Raoul, deuxième fils d'Émile, et qui est la seule personne encore vivante à avoir connu Émile. Je me demande ce qu'elle pense de tout ça.
Anne vous a raconté notre voyage à Vienne ?
Oui, oui,
oui.
Cette fois encore, je retrouve Marie-Thérèse en compagnie de sa fille, Anne.
Et entre-temps, j'ai encore un peu fouillé. J'ai trouvé beaucoup plus d'articles sur l'histoire du procès d'Émile.
Oui.
Qui avait été jugé pour avoir faussé des signatures.
Oui, oui.
Et donc les articles disent qu'une personne, Anne Saxe, son prétendu acolyte, avait pu être jugée et enfermée parce que les autres accusés, dont Émile, avaient fui.
Il utilisait également le terme pour l'un et l'autre quand il parlait de ses collègues. Vendeur ou quelque chose comme ça. Il disait avec son accent inimitable, évidemment, grand filou.
Grand filou, voilà.
Ça, je l'entends encore.
Donc, tu vois. C'est comique parce que j'en parlais à l'historienne qui m'aide dans les recherches sur place. Oui. J'essaie de trouver des excuses à Émile. Je disais, tiens, est-ce que ce serait possible qu'étant juif, on l'ait empêché de mener ses affaires correctement ? Et que du coup, il était bien obligé de faire un peu le filou pour survivre et gagner sa vie parce qu'on l'avait tellement bloqué de toutes les parts. Donc je disais à Lucie, je cherche des excuses, est-ce que tu penses ceci, cela ? Je crois quand même qu'Émile devait être un peu dodgy, en anglais.
Non, grand filou.
Grand filou. Et elle me dit, mais je comprends pourquoi tu cherches des excuses. C'est vrai que nous, c'est notre ancêtre, alors on a envie d'avoir une bonne image. D'un autre côté, ça ne le rend que plus...
Sympathique,
d'une certaine manière, je trouve.
Voilà. Oui.
Lors de l'audience finale, les accusés sont jugés coupables. Mais seule Anne Saxe est envoyée en prison, car Émile a entre-temps fui à Bruxelles. Nous sommes alors le 9 juin 1939. L'article de presse retrouvé dans le dossier de Maria date du lendemain, le 10 juin. Maria, elle, avait été amenée à la police quelques jours plus tôt, le 3 juin. Et de là, elle avait été emmenée à Amsteinhof. La chronologie des événements signifiait qu'elle ne pouvait pas avoir l'article sur elle lorsqu'elle est arrivée à Amsteinhof. Il n'était pas encore publié. Donc s'il était dans son dossier médical, c'était certainement à l'initiative d'un médecin ou d'une infirmière. Je ne pense pas qu'on puisse y voir la preuve que Maria aurait été enfermée par représailles envers son mari. On l'a vu, le dossier de Maria montrait qu'elle allait vraiment mal. Et d'ailleurs, l'approche du procès expliquait d'autant mieux son angoisse. Mais par contre, je crois que ça a pu aider le personnel médical à justifier des mauvais traitements, dans une ambiance de surpopulation et de dégradation des conditions à l'hôpital. Après tout, ce n'était que la femme d'un escroc juif. Mais le procès remet aussi totalement en cause les raisons du départ d'Émile hors d'Autriche. A-t-il fui parce qu'il était juif ? Parce qu'il avait aidé l'Église à vendre des objets religieux ? Ou parce qu'il allait être condamné ? Et surtout, cela pose la question, qui était vraiment Émile ? Un héros ou un escroc ? Mallette verte est un podcast réalisé par Perrine Sokal. Une production du Xara ASBL, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pour en savoir plus sur les recherches et sur le contexte historique, rendez-vous sur le compte Instagram La Mallette verte.
Retrouvez Paroui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.